Bonjour Philippe Duvier.
Bonjour.
Le nombre de chômeurs a fortement augmenté le mois dernier. 50 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est une augmentation de 1,4%, la plus forte depuis janvier 2013. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, voit dans ces chiffres une augmentation atypique du chômage, sans rapport, dit-elle, avec l'évolution générale de la conjoncture. Selon elle, elle serait imputable aux attentats terroristes. Est-ce que cette explication vous paraît recevable?
Non, cette explication ne tient pas une seule seconde. Le bilan des
Le tourisme, les attentats ont eu un effet.
Il y a eu un peu de moins de tourisme, mais attendez, 50 000 chômeurs en plus. Lorsque le mois dernier, il y avait une légère baisse, ça y est, tout va bien. Vous voyez, les effets positifs de notre politique, on est en train de les voir. Non, simplement un chiffre. Et ce chiffre, il est terrifiant pour François Hollande. Depuis qu'il est président de la République, toute catégorie de chômeurs confondus, c'est presque 1 million de chômeurs en plus. Vous voyez qu'on est loin des grandes promesses, des inversions de la courbe. Ça signe quoi, cet échec dramatique sur le chômage? D'abord, autant de familles qui sont dans des difficultés innommables au quotidien. Ça signe l'échec total de François Hollande parce que ils n'ont pas fait les réformes en profondeur dont ce pays a tant besoin. Et comme ces réformes n'ont pas été faites, eh bien, la France est en panne. Elle est en panne de croissance. Elle est en panne d'emploi. Et derrière, c'est une immense précarité. Vous savez, ce président de la République qui nous dit...
Il y a pourtant des choses qui ont été faites pour aider les entreprises, notamment.
Mais ça a été...
Et le MEDEF s'en était même félicité à un moment.
Le MEDEF s'est félicité, oui, mais on voit bien que ce n'était pas le chemin qu'il fallait emprunter. Ils ont mis en place, vous savez, ce fameux CICE, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, dont il s'avère totalement insuffisant. Il y avait un bel outil qui avait été mis en place sous le quinquennat précédent pour améliorer la compétitivité, c'était cette fameuse TVA compétitivité. Deuxièmement, le problème du code du travail, ce naufrage gouvernemental sur cette loi El Khomri. Vous voyez bien, le front syndical est coupé en deux. La gauche est coupée en deux. Le dialogue social est à l'arrêt dans ce pays et ça ne va pas mieux pour les entreprises. Donc franchement, ce pays est abîmé et surtout cette précarité qui a progressé.
Est-ce que vous pensez que François Hollande va tenir son engagement de ne pas se présenter s'il n'inverse pas la courbe du chômage?
Vous savez, il a épié 60 propositions. Donc 60 promesses, il n'a pas tenu le tiers de ses promesses. Comme lui, il n'y a qu'une chose qui l'obsède, est-ce que oui ou non il va se représenter? On sait très bien qu'il a envie de se représenter, il fait tout pour.
Il est en campagne d'après vous en
ce moment? Mais il est en campagne tous les jours.
Une dizaine de discours prévus au cours de cette semaine.
Et moi je n'ai pas oublié ce qu'il disait à l'époque en 2011 lorsqu'il critiquait Nicolas Sarkozy et qui était également en campagne. Il n'avait pas de mots assez durs pour expliquer qu'on était président de la République, on était président jusqu'à la dernière heure. Et là, il n'est pas un jour où il ne soit pas en campagne. Mais il pense plus à la gauche, il pense plus à sa campagne qu'il ne pense à la France.
Alors hier, il était à Calais et il a confirmé sa décision de démanteler complètement et définitivement, a-t-il dit, la jungle de Calais, où vivent entre 7000 et 10000 migrants. Le plan du gouvernement prévoit de les répartir dans des centres d'accueil sur l'ensemble du territoire. Certains responsables d'exécutifs locaux ont dit qu'ils n'en voulaient pas, par exemple Laurent Wauquiez en Auvergne. Est-ce que cela doit, selon vous, se faire sur la base stricte du volontariat?
D'abord, le président de la République a mis 4 ans et demi pour aller à Calais. 4 ans et demi. En laissant une jungle dont on voit que chaque jour, elle est plus nombreuse, puisqu'on compte près de 8 à 10 000 migrants. Premier élément. Deuxième élément, bien sûr qu'on ne peut pas laisser, dans le Calaisis, ce qui se passe. C'est insupportable pour les habitants de cette ville. C'est signe aussi un échec de cette Europe. Je rappelle que si nous en sommes là, c'est cet accord qui avait été signé au Touquet entre l'Angleterre et la France.
Par Nicolas Sarkozy.
Oui, mais c'était une autre époque, pardonnez-moi, où il n'y avait pas autant de migrants. C'est vrai, mais il faut
reconnaître.
Mais absolument, il faut reconnaître. Mais depuis, les choses se sont empirées. Ouais. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est dire deux choses simples. La première, ce que j'ai toujours dit. On ne pourra pas continuer à accueillir tout ce regroupement familial dans les conditions où ça se fait. En revanche, on doit continuer à accueillir en France des personnes qui partent de leur pays pour des raisons notamment politiques ou lorsqu'on sait qu'ils ne peuvent plus rester parce que la guerre est présente. Et ça, on doit être capable de les accueillir. Ensuite, il faut savoir comment les migrants, on les répartit équitablement sur le territoire. Ça ne peut pas se faire d'un coup de poing sur la table d'un préfet. Ça ne peut se faire que dans la concertation avec les élus locaux. Donc, vous voyez une voie encore médiane.
Mais est-ce que ça ne peut se faire que si les communes concernées acceptent? Ou est-ce qu'on doit pouvoir éventuellement l'imposer sur certains territoires?
Non, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on impose les choses. Vous savez, dans ce pays abîmé, couturé, dans ce pays où le dialogue est difficile, il faut aussi trouver des hommes et des femmes, des élus qui sont capables d'accompagner. Mais il s'agit bien aussi d'encadrer les choses. Je dis bien encadrer les choses. La France ne peut pas accueillir des centaines de milliers de migrants. C'est impossible. Impossible. On peut se raconter n'importe quelle histoire, on ne peut pas le faire. En revanche, on a une exigence que ça ait de montrer que nous sommes aussi humanistes pour ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, partent leur pays parce qu'ils sont chassés, tout simplement, ou partent leur pays parce qu'ils sont en guerre.
Quel rôle vont jouer les centristes dans l'élection présidentielle? J'ai l'impression que vous-même, pour l'instant, vous avez un peu de mal à le savoir, en fait.
Moi, je sais parfaitement.
Oui, vous, mais enfin, je parle des centristes en général. C'est pas très clair. Chacun va soutenir son candidat chez les Républicains. Pour l'instant, les centristes n'ont pas leur candidat propre. Comment vous voyez les choses, vous?
Moi, je regrette que l'UDI n'ait pas de candidat à l'élection présidentielle. Je dis toujours, on avait Borloo, mais il n'a pas souhaité continuer. Donc, c'est ainsi, il faut le respecter.
Il n'était pas remplaçable.
Comment ?
Il n'était pas remplaçable. Il n'y avait pas chez vous quelqu'un
qui... Absolument. Personne n'a émergé qui soit en capacité à avoir le rayonnement, l'influence qu'avait Jean-Louis Borloo. La deuxième chose, bien sûr que les centristes doivent participer à la primaire. Vous savez, j'étais une des premières voix à le dire en tant que président de groupe. Comment voulez-vous qu'il y ait une élection présidentielle qui se passe où nous soyons uniquement des spectateurs ? L'électorat central, l'électorat du centre, il a des choses à dire. Il a des messages à faire passer sur le plan économique, comme vous disiez tout à l'heure, sur le plan de l'immigration, sur le plan de l'éducation. Et donc, il faut absolument que les militants, les sympathisants, tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs, aillent voter, bien sûr, pour ces primaires à la droite et du centre. Moi, je me déterminerai au mois d'octobre. Et je regrette, je vous le dis très simplement, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'harmonisation et que chacun ait choisi un peu le candidat qu'il préférait. Quoi qu'il arrive, au lendemain de la primaire, il faudra peser dans ce projet présidentiel. Quoi qu'il arrive, il faudra peser dans un programme gouvernemental. Quoi qu'il arrive, il faudra peser à l'Assemblée dans un groupe parlementaire plus large, avec une recomposition politique que j'appelle de mes voeux, mais au lendemain de la présidentielle. Ça n'est pas maintenant qu'on peut la faire. C'est au lendemain, assez large.
Jean-Christophe Lagarde s'en est pris à Nicolas Sarkozy à propos de sa phrase sur les Gaulois, nos ancêtres, les Gaulois. Une provocation, a-t-il dit, dans une période de tension. Une phrase comme celle-là nuit à l'intelligence politique. Elle veut faire croire que le problème des Français, c'est l'identité nationale. C'est un mensonge. La France n'a pas de problème d'identité nationale. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses?
Je pense que la France a des problèmes d'identité nationale, mais on ne peut pas en faire le thème central. Vous voyez, on a commencé par le chômage. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Bien sûr que le problème d'identité nationale, de la citoyenneté, de l'immigration sont des questions dans toutes les têtes. Mais vous savez, les Français, la première des dignités pour eux, c'est qu'ils aient un boulot, c'est qu'ils aient un logement. Or, ce problème-là, il n'est pas traité. Pire encore, il y a 8 millions de pauvres. Il y a le problème européen. Quand est-ce qu'on va être capable de bâtir une Europe qui sera mieux d'Europe et non justement ce que l'on voit à l'heure actuelle, qui chaque jour divise un peu plus les Européens entre eux.
Alors Nicolas Sarkozy, hier, a dit la chose suivante. Il veut mettre en place la politique d'assimilation plutôt que celle d'intégration qui, selon lui, n'a pas marché. On ne peut pas, a-t-il dit, en référence à l'étude de l'Institut Montaigne, on ne peut pas garder en France 29% d'une communauté qui se trouve tenté par la charia. Qu'est-ce que vous inspire ce propos? Est-ce que vous le trouvez juste ou est-ce que vous dites qu'il est à nouveau dans une forme de transe?
Moi, ce que je dis qui est assez simple, d'ailleurs 70% des musulmans se sentent bien déjà en France. Peut-être aussi qu'on parle, vous voyez, des choses positives. Cette France aussi, c'est celle des déclinologues, des déclinistes, de tous ceux qui nous expliquent que tous les jours...
C'est 46% qui sont parfaitement bien, 25% 70... qui sont sur une forme de repli identitaire et 28% qui sont dans un rejet des valeurs de la République.
Ce qui n'est pas acceptable, je vous dis très clairement, c'est que lorsqu'on va dans un pays, on n'en accepte pas les valeurs, on n'en accepte pas la laïcité.
Mais quand on va dans un pays, vous parlez de certains qui sont dans ce pays, qui y sont nés, dont les parents sont nés ici aussi.
Il n'y a pas de place pour l'intégrisme, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient. Voilà. Il faut comprendre. Moi, je suis favorable parce qu'on a la capacité en France d'avoir des musulmans de France. Il faut être capable de comprendre qu'ils doivent respecter ces valeurs de la République qui nous unissent, que ce pays a été touché au cœur, que ce pays, il doit fonctionner dans une sorte de concorde. Donc, oui, à ce que chacun puisse exprimer sa religion, mais le vivre ensemble doit l'emporter. Et il n'y a pas de place pour tout intégrisme, d'où qu'il soit, tout extrémisme, d'où qu'il soit. Ça, ce n'est pas supportable. Vous savez, je vous rappelle une chose. Sur la déchéance de nationalité, j'avais été favorable à des chances pour tout. J'avais été favorable à ce que ceux qui allaient faire le djihad ne puissent pas rentrer. Parce qu'il fallait des symboles très forts. Être français, ça signifie des droits, ça signifie des devoirs, ça signifie qu'on ne peut pas imposer à l'autre sa façon de voir.
Merci Philippe Vigier. Bonne journée.